Je m'appelle Paul Macrousse, je fais un doctorat en sémiologie. Je rédige deux blogs, entre autres. Donc, vous allez en savoir plus dans le fond quand je vais parler. Alors, ça fait plusieurs fois que je parle ou que j'écris à propos des blogs, que ce soit de manière formelle ou informelle. Et je me suis donné le défi d'aborder le sujet sous un angle différent à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce qui caractérise le blog avant tout, c'est son caractère insaisissable, dû peut-être au fait qu'il peut appartenir à n'importe qui, mais aussi parce qu'on peut lui donner n'importe quelle direction et on peut changer cette direction-là spontanément n'importe quand. Autrement dit, le blog, pour moi, c'est synonyme de « on fait ce qu'on veut ». Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder l'écriture sur les blogs avec une notion que je trouve super importante et qui est en lien avec l'aspect insaisissable du blog, et cette notion, c'est l'abondance. L'abondance des blogs, des idées sur les blogs, mais surtout l'abondance dans le processus d'écriture du blog lui-même. Je crois pouvoir affirmer que, en tout cas ces temps-ci, j'écris presque tout le temps. J'écris compulsivement pour ne pas être bloquée, parce que cette sensation-là m'est tout à fait insupportable. Que ce soit des articles, un journal intime, des tweets, ma thèse, des chansons country, j'écris. Mes blogs font partie pour moi de cet acte d'écrire en continu. J'ai commencé la rédaction de mes deux blogs dans le but d'accompagner l'exercice ardu de la rédaction de ma thèse. Donc, mon blog Effet de présence, que je rédige depuis 2006, pourrait être qualifié peut-être de blog académique, puisque les réflexions qu'on y trouve sont similaires à ce qu'on va retrouver dans ma thèse. Et puis, mon blog Patio Green, ce serait peut-être plus un blog création, une exploration d'une extension identitaire, dans lequel je m'amuse à mettre l'accent sur des déséquilibres ou des situations déstabilisantes de ma vie. Donc, les deux blogs me permettent une liberté dans l'écriture que je ne trouve pas ailleurs, une liberté qui s'exprime, entre autres, dans l'exploration des différentes écritures médiatiques qui va rendre possible. Parce que c'est certain que j'utilise beaucoup le texte, comme tout le monde, mais j'essaie d'écrire aussi avec des images, des vidéos, des jeux de couleurs qui sont devenus très importants pour moi et des GIFs animés. Ça peut sembler étrange de constater que sur mes blogs, je vais privilégier la quantité au lieu de la qualité. Toutefois, l'abondance, pour moi, c'est la quantité perçue comme quelque chose qui ne se dénombre pas. Plus j'écris, plus j'ai des idées, plus j'ai envie d'écrire. Et puisque la majeure partie de mon travail, de mes loisirs et de ce que je dois faire en ce moment requiert l'écriture, je veux avoir envie d'écrire tout le temps. Privilégier la quantité plutôt que la qualité sur mes blogs, c'est une manière de garder un flux actif. Donc, dans un tel flux, on s'en doute, tout n'est pas intéressant. Et là-dessus, je vais citer Penelope Trump, qui est une blogueuse active et ex-net artiste, qui dit « If you can't cope with a high degree of irrelevance, blog is not for you ». Et j'endosse complètement cette affirmation-là. Toutefois, il me semble que même dans un flux rompu et peu actif et réfléchi, tout n'est pas intéressant non plus. On me demande parfois si bloguer me prend pas trop de temps et d'énergie, du temps que je pourrais consacrer à ma thèse, par exemple. Pour moi, c'est le contraire, c'est complètement absurde, parce que cet investissement-là est loin d'être synonyme de gaspillage de temps et d'énergie. Je remarque que plus j'écris ma thèse, plus je blogue et non l'inverse. S'il y a abondance sur mes blogs, il n'y en a pas moins ailleurs, car quand le flux est actif, il est actif partout. Bloguer, c'est surtout se créer un espace, voire créer de l'espace. Et se créer de l'espace, tel que mes lectures en astrophysique me le révèlent, ça sauve du temps et ça donne beaucoup d'énergie. Bloguer, c'est aussi lire en abondance. Je ne fais pas une scission nette entre écrire et lire dans la blogosphère. C'est un dialogue continu avec les autres blogueurs. Je lis beaucoup de blogs, je commente quand j'ai le temps et je réponds toujours aux commentaires qui sont laissés sur mon blog. En fait, je suis une vraie jaseuse de blogs. Je suis toujours motivée à transformer n'importe quel fil de commentaires en espèce de chat room. Et aussi, je rebondis parfois de manière plus ou moins explicite sur les biais des autres, ce qui me donne moins l'impression d'interagir avec les blogueurs, mais plutôt de participer à un flux d'idées et d'encourager leur circulation. Ainsi, je ne connais pas ce blogueur narcissique et isolé dont parle Geert Loving, qui est un des théoriciens éminents du blog. Là où on voit du narcissisme, je vois surtout du partage. Je suis toujours impressionnée par la générosité des blogueurs que je lis. C'est ça qui me fait le plus triper, en fait. Tel que je le mentionne dans la description de mon blog Effet de présence, j'ai l'impression d'inscrire mes textes et mes réflexions dans une économie du don. Je me réfère ici moins à Marcel Maas qu'à Lewis Hyde, qui écrit à propos de la manière dont certaines formes d'écriture ou d'art peuvent engendrer une économie de partage, les auteurs n'exigeant pas de réciprocité immédiate ou future. Donc, pour terminer, juste dire que bloguer me permet de maintenir une abondance, non seulement dans mon écriture, mais aussi de faire partie d'une abondance que je trouve extrêmement stimulante. Merci.
Alors, bonjour, moi je m'appelle Myriam Daguzan-Bernier, j'ai le blog « Ma mère était hipster ». Premièrement, ben, je suis très contente d'avoir été invitée ici aujourd'hui, mais je dois dire que quand j'ai reçu l'invitation, j'étais quand même un peu surprise parce que ça s'appelle le blog littéraire Nouvel Atelier de l'écrivain. Je suis blogueuse, oui, mais je ne suis pas littéraire et je ne suis pas non plus écrivaine. Donc, au début, je me sentais un peu imposteur dans cette invitation-là qui me faisait très plaisir, par contre. Mais je me suis dit, faisons l'exercice de savoir pourquoi je blogue et pourquoi je m'inscrirais, en fait, dans cette journée-là. Et l'exercice que j'ai fait de revenir sur mon histoire avec le blog a été intéressante parce que j'ai fait des constats sur ma relation un peu amour-haine avec le blog, disons. Je suis arrivée sur la blogosphère vers peut-être 2004 ou 2005, puis j'avais croisé quelques blogs ici et là sur Internet. J'étais surtout inspirée par des blogs de chroniques très, très variés, bouffe, voyage, etc. Et à ce moment-là, je vivais dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, que je trouvais très coloré, et j'avais eu envie de partir un blog sur le quartier. J'avais donc un blog qui s'est appelé Chronique Hochelaguenne. Et Chronique Hochelaguenne a survécu à peu près un an et demi, deux ans, et c'était toutes sortes de chroniques que je faisais là-dessus sur le quartier, ce que je voyais qui se passait là-bas. Et à un moment donné, j'ai changé le nom de ce blog-là pour quelques points de suspension, parce que je me suis rendu compte que Chronique Hochelaguenne, je ne parlais pas pratiquement plus d'Hochelaga, en fait. Et ça devenait beaucoup plus des notes personnelles et une espèce de... pas un journal intime, j'aime pas trop cette appellation, mais un carnet de notes, en fait, sur ce que je voyais, sur mon travail, etc. Et celui-là aussi a duré à peu près un an et demi environ, et jusqu'à temps que je tue ce blog, parce que j'étais fatiguée de l'entretenir, parce que ça menait à rien. J'avais pas de projet précis avec lequel... que j'avais en tête pour continuer quelques points de suspension. J'ai fait une pause de blog pendant un bon moment et j'ai ensuite essayé un blog à quatre mains avec une amie dans le cadre d'un voyage en Europe et ça s'appelait Anne-Marie et Myriam à Paris. Mais le projet est tombé à l'eau assez rapidement pour diverses raisons, mais entre autres, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas de tangente. Ah, merci. Il n'y avait pas de tangente, il n'y avait pas de ligne directrice à ce projet-là. Et moi, ce que ça m'a fait réaliser, entre autres, c'est que j'avais besoin d'une ligne directrice pour écrire. J'ai ensuite commencé le blog « Ma mère est hipster » que vous pouvez voir ici. Ce blog-là est parti d'un coup de tête, en fait, un peu. C'est une blague que j'ai lancée avec mon copain à l'époque. Je voyais des photos de ma mère, comment elle était habillée à l'époque, et je trouvais ça très drôle de faire un parallèle avec les hipsters de nos jours, et qui est non seulement une mode vestimentaire, mais tout aussi un mode de vie aussi, qui est aussi un copier-coller en ce moment dans la société où on est, qui est une espèce de copier-coller des années 60, 70, 80. Et les hipsters se disent un peu détenteurs de la culture émergente. Et je vais parler là de Montréal parce que c'est mon terrain, disons. Et je me suis dit, ben c'est pas tout à fait vrai. Et donc, j'ai décidé d'appeler ça « Ma mère était hipster » parce que, à mon sens, ma mère, vestimentairement parlant, si ça se dit, et dans ce qu'elle faisait dans la vie, devait être une hipster avant. Alors, c'est parti de là. Et c'est parti aussi d'un lien professionnel. J'étais avant disquaire, libraire, commis au magazine dans deux grandes chaînes de magasins que je ne nommerai pas et que vous devez savoir c'est lesquels, anyway. Donc, voilà. Et je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais d'être proche des produits culturels, en fait, du partage, des recherches que j'avais à faire, et je me suis dit, pourquoi pas partager ça? Mais encore une fois, le projet n'était pas bien lancé et j'ai abandonné ce blog, et oui, et je l'ai laissé aller pendant quelques mois. Il y a eu ensuite un autre blog, pour continuer dans mes abandons de blog, un blog post-rupture amoureuse, qui s'est appelé « Quelques jours seulement, 1 plus 1 égale 0 ou une petite fin du monde ». Et comme je dis, ça a été quelques jours seulement et je l'ai enlevé de la blogosphère parce que ça menait absolument à rien, sinon déverser ma frustration pendant quelques jours. J'ai pris une pause encore une fois et j'ai fait revivre « Ma mère était hipster » en constatant que j'avais accumulé beaucoup de matériel pour partager sur la culture émergente à Montréal. Comme vous pouvez le voir ici sur le... On le voit bien, oui. Comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. Ça couvre vraiment culture de façon générale. Donc, c'est autant histoire de l'art, musique, théâtre, performance, etc., etc. Et je viens du domaine d'histoire de l'art, juste pour que vous soyez situés. Et parallèlement à ça, parce que chez moi, c'est tout ou rien, j'avais aussi ouvert un blog que j'appelais de fiction, qui s'appelait Absurdité claustrophobe, et par lequel j'ai connu des blogueurs ici qui le commentaient allègrement. Voilà, merci. Et donc, c'est, de faire les deux en même temps, ça a été une expérience intéressante parce que ce bloc-là, Absurdité claustrophobe, qui est en ce moment un peu en stand-by, si vous me permettez l'expression, il est encore existant, mais je l'ai comme enlevé. Je n'assumais pas tout ce que je disais là-dessus. Ça pourrait peut-être être une question intéressante à débattre entre blogueurs. Et j'ai décidé encore une fois de l'arrêter. Donc, celui qui survit, mais je devrais dire vit, parce qu'il vit très, très bien et le suivi se fait bien, c'est celui-ci, Ma mère est hipster, qui est un, qui n'est pas un blog littéraire, qui est vraiment un blog culturel qui couvre ce qui se fait d'émergent à Montréal. Et l'envie d'écrire sur ce blog ne s'est jamais tarie avec les années. Ça fait 3 ans et c'est un blog que j'ai l'intention de garder le plus longtemps possible. Et ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que ça m'a amené vers des occasions professionnelles. Et mon travail actuel s'est croisé avec ça aussi. Donc, ça a amené, disons, une vie parallèle professionnelle. Mais ça reste un blog qui est fait bénévolement et avec plein d'amour. Donc, voilà.
On pourrait peut-être juste spécifier deux petites choses avant que je parle de mon cas. On pourrait spécifier le fait que ma mère était hipster, c'est maintenant un point com. Donc, c'est intéressant. Il y a comme une espèce de flottement, encore une fois, là, entre le blog et le magazine culturel, le e-zine. Donc, Myriam est comme passée à une catégorie supérieure comparée à nous, pauvres blogueurs. C'est-à-dire qu'elle reçoit des disques chez elle maintenant. Elle reçoit des invitations, elle reçoit des disques et tout. Deuxième spécification. C'est que, ben oui, sans aucun doute. On a parlé un peu tout à l'heure de l'aspect communautaire. Je pense que c'est une des choses qu'il faudrait vraiment aborder entre nous, là, mais c'est un des aspects les plus intéressants peut-être du monde des blogs. C'est le fait que, par exemple, Paul, Patty, Myriam et moi, on vient de se rencontrer pour la première fois. Donc, je pense que vous deux, vous étiez déjà rencontrés peut-être, mais bon, on se connaît vraiment comme si on faisait du chat, comme si on avait 14 ans, là, en étant dans des chat rooms depuis très longtemps. Je les rencontre les deux pour la première fois, puis ça, à la limite, il y a un effet d'inquiétante étrangeté qui se crée. Donc, cet effet-là des clics de la communauté, on commente chacun nos blogs de façon assez assidue et allègre, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je pensais improviser, mais finalement, je suis trop nerveux, je suis pas capable de faire ça. Donc, m'en remettre au texte, au petit texte que j'avais écrit. Mon nom, c'est Daniel Grenier. J'ai un blog qui s'appelle Saint-Henri. Voilà, ça, c'est la deuxième mouture. Donc, rapidement, là, c'est pas très construit ce que j'ai écrit. Bon, le premier billet sur Saint-Henri date de mars 2009, donc c'est quand même assez récent. Il y a des gens qui bloguent depuis 2001, 2002, à la limite 98, 99. Là. Déjà, j'annonçais mes couleurs. Premièrement, je précise dans ce premier billet-là que je n'ai pas vraiment le temps d'écrire un blog. Qui a vraiment le temps d'écrire un blog? J'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. En théorie, personne n'a jamais le temps. Deuxièmement, j'utilise le terme laboratoire, qui n'est pas sans être étranger à celui d'atelier qui est au menu de la journée. Donc, je me cite dans ce premier billet que je me suis amusé à aller repêcher dans les archives du blog. Ça a commencé par « C'est Maria qui m'a donné l'idée de commencer le blog. Le sien s'appelle « Ne tirez pas sur le pianiste ». J'ai pas le temps. Je vais le concevoir comme un laboratoire pour mes réflexions. » J'ai autre chose à faire. Écrire ici ce à quoi je pense dans le cadre de mon doctorat et de mon travail avec ces gens qui reçoivent des chèques du MIC, le ministère des Migrations, puisqu'à ce moment-là, j'étais employé au ministère des Migrations en tant que moniteur dans les cours de français pour la francisation. Bon, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que je viens de terminer la lecture des âmes mortes de Gogol en version anglaise et que quoi? Génie du comique, du grotesque, mais on sait ça. Quoi d'autre? En russe, ils disent « pochlost » pour décrire, si j'ai bien compris, le mélange de banal, de grotesque et de vulgaire. Gogol, c'est exactement ça, mais surtout le traitement du banal, la subtile beauté du quotidien. Donc, on pouvait voir tout de suite que Saint-Henri n'allait pas devenir un blog avec un concept précis comme celui dont on a parlé ce matin de Pierre-Marc Drouin, alias Luc Pierre, ou encore un blog de quartier comme Saint-Henri Chronicles, qui, lui, s'intéresse vraiment aux enjeux politiques, sociaux de l'endroit, hein, essaie d'en faire part au lecteur. Le seul concept clair que j'avais, c'était la pseudonymie, à laquelle j'ai pas dérogé depuis l'ouverture en début 2012, donc ce mois-ci, de Saint-Henri deuxième version, qui est maintenant sur WordPress. Je suis passé pour l'occasion de Blogspot, à WordPress, et même si mes billets sont encore signés Clarence l'inspecteur, qui était mon... Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, c'est...
Moi, non, mais c'est un peu ce que j'ai dit, je pense. Hein. Passer du Blogspot à WordPress. Donc, même si les billets sont encore signés Clarence l'inspecteur, j'ai maintenant officiellement réclamé Saint-Henri sous mon propre nom. Ça revient à ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. On finit par accepter d'avoir produit toutes ces choses qui sont pas toujours pertinentes. Dans l'à-propos, j'écris que ce blog est l'espace de création de Daniel Grenier. J'aurais pu dire atelier. Il y a une grande différence entre Saint-Henri 1 et Saint-Henri 2. Au-delà de la plateforme qui a changé, mon blog a été ouvert à une époque de ma vie où je n'avais aucune perspective de publication. J'écrivais depuis longtemps, mais je n'avais reçu que des refus pour mes manuscrits de romans. À ce moment-là, vous pouvez pleurer, si vous voulez, dans la salle. Ouvrir un blog, c'était donc pour moi, d'abord et avant tout, on s'entend là-dessus, d'abord et avant tout, une manière de mettre des textes en ligne afin d'avoir un minimum de feedback et, idéalement, construire un lectorat. Quand tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne au début, ce sont des choses qui sont un peu floues, évidemment. Je ne me souviens pas si j'avais sincèrement l'impression que j'allais être lu par genre 100 000 personnes ou par 2 personnes. L'idée, c'était d'avoir un espace où je pourrais, sans contrainte et immédiatement, offrir mes idées et ma prose à quelqu'un d'autre, à défaut d'avoir une reconnaissance officielle du milieu de l'édition. Je pense que ça a bien fonctionné en fin de compte, dans la mesure où j'ai fini par comprendre comment fonctionnait un blog et par extension, surtout comment fonctionne la blogosphère. Ben, ne serait-ce que la blogosphère montréalaise ou québécoise en général. Et que j'ai arrêté de m'en servir seulement comme un moyen de diffusion et bien comme une fin en soi. À un certain moment, j'ai compris ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait d'écrire un billet de blog qui n'avait rien à voir avec les autres formes d'écriture plus traditionnelles. Ceci dit, c'était pour moi non pas un atelier de création en tant que tel, mais bien le seul espace disponible pour satisfaire un tant soit peu mon besoin de reconnaissance. On s'entend pour dire que ce que j'ai fini par apprécier au plus haut point, beaucoup plus que la reconnaissance que ça peut amener de manière directe, c'est l'aspect communautaire, réseautique des blogs. Tout cet exercice devient intéressant à partir du moment où on commence à avoir l'impression d'appartenir à une communauté de lecteurs ou, en fait, d'auteurs. C'est le point qui est intéressant, d'après moi, d'appartenir à une communauté aussi petite soit-elle. Donc, on commence à s'intéresser à des choses comme notre blog roll, comment fonctionnent les stats, etc. Comment aller chercher, on part à la pêche au lecteur, on va aller mettre des commentaires sur les autres blogs parce qu'on veut attirer l'attention jusqu'à un certain point sur le nôtre. On veut créer un réseau comme ça qui alimente les échanges. Puis on finit par se rendre compte aussi, je pense que c'est Simon qui disait ça tout à l'heure, qu'il y a des stratégies marketing qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. C'est très, très, très rarement les billets, entre guillemets, intelligents ou approfondis ou réfléchis qui attirent l'attention et qui attirent ce qu'on appelle le fil de commentaires, donc l'échange entre les gens. Parce que puis finalement, c'est à peu près juste ça qu'on veut échanger avec les gens sur nos blogs. Même si on a eu... je sais pas moi, 100 visites par jour selon Google Stats, ça change rien s'il y a encore la mention « laisser un commentaire », le billet est raté, jusqu'à un certain point. Bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord.
Non, 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 c'est
ça. Non?
Non.
Oh non, pas moi, toi, non, d'accord. C'est ça. On voit que j'ai une vision plus mercantile de ces choses-là. Maintenant, c'est différent, bon, dans la mesure où... avec cette nouvelle version-là, elle est reliée aussi jusqu'à un certain... Bon, là, ça revient à ce que je disais tantôt, avec la publication prochaine de mon livre qui va sortir Évidemment, le blog va peut-être devenir obsolète. Il va servir comme outil, je ne sais pas, de making of à la limite, ou de un espèce de documentaire behind the scenes du livre en tant que tel, mais je ne sais pas jusqu'à un certain point si il va continuer à être alimenté dans la mesure où l'expérience Saint-Henri, pour moi, du quartier Saint-Henri, va se terminer avec la publication du livre qui s'en vient bientôt. Donc, c'est ça. Je voulais juste dire en terminant que il y a un aspect qu'on pourrait peut-être aborder ensemble, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi aussi, qui moi m'intéresse, qui a pas du tout été touché aujourd'hui, c'est l'aspect un peu loser, l'aspect un peu honteux jusqu'à un certain point, de tenir un blog dans la communauté restreinte de nos amis en général, dans la vraie vie et tout. Donc, on est là, nous, on est tous ensemble en train de parler comme si c'était quelque chose qui allait de soi, mais il reste, d'après moi, il y a un aspect intéressant là-dessus aussi. Moi, ça m'est arrivé de ne pas le dire à des gens, tu sais, que je tenais un blog parce que je savais que leur réaction allait être négative et à la limite méprisante pour le médium en tant que tel. Donc, c'est un point, je pense, qu'on pourrait aborder aussi.
Moi, je suis Geneviève Peterson, j'ai le blog Madame Chose. Juste pour vous situer, ça fait vraiment pas longtemps que je blogue, donc je me sens un petit peu une jeunesse comparativement à vous. J'ai commencé à bloguer en septembre 2011, donc faites le calcul, là, ça fait pas tellement longtemps. Moi, c'est un peu sur un coup de tête que j'ai ouvert Madame Chose parce que, bon, je venais de démissionner puis ça me tentait de faire quelque chose de mes journées. Donc, j'étais allée voir un peu sur WordPress, puis j'ai ouvert je me suis ouvert un compte, puis j'ai posté mon premier billet l'après-midi même. Donc, c'était pas tellement réfléchi, mais en même temps, en faisant l'exercice aujourd'hui de voir un peu comment ça se faisait mon affaire, je me suis rendu compte que, inconsciemment, j'avais déjà quand même un projet éditorial en tête, puis tout ça allait se mettre en place assez rapidement. Parce que, je ne sais pas si on peut voir, mais mon blog, c'est un peu, c'est un guide du bien-vivre pour la jeune femme moderne. Donc, c'est un peu une version 2.0, si on veut, des anciens guides d'économie familiale tels qu'en faisaient Jeannette Bertrand ou Jeanne Benoît. Je trouvais ça assez ironique de prendre quelque chose d'aussi passé date puis vintage puis de le mettre sur un... Je trouvais ça drôle, en fait, de le mettre sur un support comme ça. C'est sûr que en cantonnant mon truc, à la Jeannette Bertrand, tout ça, il y a des textes puis des recettes aussi que je ne mettrais pas sur Madame Chose, parce que sur Madame Chose, il y a des recettes. Puis ça, je sais que c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard, que c'est quelque chose qui est souvent jugé par les autres blogueurs. Mais la raison pour laquelle j'ai mis des recettes est simple, c'est pour attirer du trafic. C'est un peu plate à dire. Moi, je suis une fille qui vient de l'édition, qui vient de la pub, donc vraiment inconsciemment, même si j'étais très ingénue quand je l'ai faite, j'ai mis en œuvre tous les processus promo puis de poussage de trafic que je connaissais puis que j'utilisais en pub pour mes clients. Je l'ai fait pour moi, finalement. Donc, j'ai créé parallèlement au blog, une page Facebook et un compte Twitter qui a l'identité Madame Chose, où est-ce qu'on peut trouver du contenu exclusif, mais qui pousse aussi le contenu. Tu sais, moi, je suis l'école de la convergence, donc je fais converger tout ça vers mon blog. Puis... c'est sûr que qu'est-ce qui attire les gens? Oui, c'est sûr que dans les manuels d'économie familiale d'avant, les femmes nous expliquaient comment tenir maison et tout. Il y avait des recettes. Donc, j'en ai mis aussi pour ça, c'est sûr. Là. Mais la raison principale était quand même d'attirer du trafic. Puis ça, c'est drôle parce que ça m'a attiré un trafic qui ne correspondait pas vraiment au public cible que je m'attendais à toucher. T'sais, moi, je m'attendais à toucher des filles un peu de mon âge, qui veulent un peu être en contact avec ces histoires de bonnes femmes-là, puis qui se disent, mon Dieu, c'est quoi ces affaires-là? Moi, je veux savoir. Puis, par le référencement, simplement, je me suis rendu compte que Gérard, qui cherchait, mettons, une recette pour préparer son orignal, bien là, il tombait sur Madame Chose, puis là, il commençait à lire des affaires. Puis là, il était là, mon Dieu, il y a des histoires là-dessus. Puis là, il venait m'écrire, il disait, hey, tu sais, il y a des histoires, moi, je veux savoir la suite, ça, c'est arrivé, tu sais. Puis, tu sais, il y a des trucs genre comment colter le lièvre. Bien, ça, tu sais, mettons qu'un chasseur tape dans Google colter le lièvre, il s'attendra pas nécessairement à tomber sur mon blog, mais là, il arrive. Puis souvent, tu sais, en tout cas, j'en ai eu un courriel d'un gars qui est arrivé, puis il l'a fait lire à sa femme, puis là, bien, depuis ce temps-là, il me lise. Donc, tu sais, tout ça pour venir à. C'est comme ça. Tout ça pour en venir à un point que je trouve important qu'on discute, c'est l'impact des médias sociaux sur le blog, parce que, tu sais, ça serait un peu... Moi, personnellement, l'expérience que j'en ai, c'est que le rapport à mes lecteurs, je l'ai non pas sur le blog. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec toi quand tu disais zéro commentaire égale un billet raté. Là. C'est que quand tu t'entretiens une page Facebook ou un compte Twitter, pour moi, c'est là qu'ont lieu les réactions principales à mes billets, ou c'est là que les échanges ont lieu. Puis c'est là aussi qu'il y a des débats sur le contenu. Parce que maintenant, quelque chose que j'avais pas prévu au début, c'était de faire des personnages qu'on allait retrouver au fur et à mesure des billets. Mais j'ai vu que les gens aimaient, exemple, ma tante Gemma ou la famille Bérubé, ça avait créé beaucoup de réactions chez les lecteurs. Fait que j'ai voulu comme continuer ça. Puis ce qui fait que le blog, je trouvais, par sa forme labyrinthique, se prêtait bien à ça aussi, parce que tu peux chercher dans les billets l'histoire de « OK, elle, c'est la sœur de qui? » Puis, tu sais, je trouvais que ça, la forme labyrinthe du blog, ça se prêtait bien aux espèces d'histoires familiales fuckées que je déploie dans mon truc. Donc, oui, les médias sociaux, à ce chapitre-là, ont eu un impact, je dirais, quand même assez important sur le développement de mon contenu. Maintenant, c'est ça qui est drôle aussi, sur Twitter, il y a des spin-offs de Madame Chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Parce que moi, chaque jour, pour les gens qui sont pas familiers avec mon blog, il y en a plein sûrement, je fais des aphorismes, des conseils du jour, exemple, la jeune femme moderne aime chasser la loutre, blabla. C'est comme des genres de conseils tout le temps un petit peu... réalisable, un peu pour rire un peu des modèles féminins, parce que quand même une démarche, si on y reviendra peut-être, là, un peu militante derrière ça, où est-ce que j'essaie un peu d'avoir un discours sur c'est quoi être une fille aujourd'hui, là. Donc, c'est ça, il y a des spin-offs de Madame Chose, puis il y a des gens maintenant qui m'envoient des lettres, là, qui me racontent des expériences qu'ils ont vécues par rapport au texte que je pose cette semaine-là. T'sais, j'ai posté un texte où il y a la mort d'un enfant qui s'est ramassé sur un forum de deuil des parents endeuillés d'un enfant qui m'ont écrit pour me dire merci d'avoir écrit ça. T'sais, moi, je pensais pas avoir un rapport au lecteur aussi. C'est vraiment un rapport qui est immédiat, là. Tu poses, puis deux heures plus tard, tu as des réactions. Ça, c'est quand même particulier au blog. Je pense pas qu'il y a une autre forme. Je pense pas qu'une forme écrite, tu peux avoir des. Sur papier, je parle, avoir une réception aussi immédiate. C'est tout.
Ben, j'avais peur de rien avoir à dire, même si je blogue depuis longtemps, parce qu'il me semble que j'ai souvent intervenu sur le blog, puis je voulais pas me répéter. Donc j'ai préparé un petit texte, je pense que je vais lire, parce que là je suis nerveuse, puis sinon je vais juste oublier mes idées, donc mon texte me garde dans quelque chose. Donc c'est ça, j'ai ouvert mon blog là, fin 2002, fait qu'on peut dire que j'ai ouvert mon blog en 2003, donc ça fait quand même un certain moment. Donc c'est ça, mon blog s'appelle « Déprime explosive ». Le titre, et c'est une référence à un passage de prochain épisode du Barraquin que j'aime beaucoup. Je vous le lis pour le plaisir parce que je suis d'abord une lectrice, puis que je trouve ça très intéressant de revenir vers la littérature, même pour parler d'objets qui sortent un peu des livres comme le blog. Donc, l'extrait de prochain épisode, c'est « En moi déprimé explosif, toute une nation s'aplatit historiquement et raconte son enfance perdue par bouffée de mots bégayés et de délires scripturaires et, sous le choc de la lucidité, se met soudain à pleurer devant l'immensité du désastre et l'envergure quasi sublime de son échec. » Donc, c'est cette référence-là que j'avais en tête pour mon blog. Puis, c'est une référence, évidemment, qui est très mélancolique pour un journal qui se voulait précisément le récit d'une grande tristesse. Donc, pour moi, la déprime, ça devait être le thème de mon blog. Puis l'explosion, bien, ça allait correspondre à ma manière de l'écrire. Donc, j'ai jamais écrit avec des contraintes. Donc, je voulais toujours écrire sous le coup d'une pulsion, donc jamais la tête froide. Mon écriture se devait d'être portée par des passions violentes, par le désespoir, par la rage, mais aussi, surtout, par le rire. Sans vouloir me présenter comme une blogueuse joyeuse, ce serait vraiment difficile, mais je peux dire que j'écris quand même souvent en riant, même si j'ai l'impression que les gens ne l'imaginent pas, là. Mais en tout cas, j'écris souvent en riant, mais j'écris parfois aussi en pleurant, mais donc c'est ça. Donc, pour moi, ce qui a toujours été important dans Déprime explosive, c'était d'écrire à mon rythme, sous mes pulsions du moment, puis comme un jeu. Donc, c'est pour ça que je dis que j'écris parfois en riant, parce que ça, c'est toujours un jeu. J'ai toujours été fascinée aussi par l'engagement immédiat de ma parole qui est permise par le blog, peu importe que les lecteurs soient ou non au rendez-vous. Parce que ça m'importe peu, là, j'accorde pas vraiment d'importance aux statistiques. J'ai toujours été fascinée, sinon je serais peut-être triste si j'en accordais, mais c'est pas grave. J'ai toujours, de toute façon, je m'attends à rien, fait que je serais même pas triste. J'ai toujours été fascinée aussi par, cet engagement-là immédiat de la parole. Donc, peu importe que les lecteurs soient au rendez-vous, je suis engagée à mes textes chaque fois que je les publie. Et pour moi, cet engagement-là est vraiment important puis il est excitant. Il est excitant parce que c'est une ouverture vers le monde, mais il est important aussi parce que dans mon travail d'écriture, ça me libère de certaines idées. Pas nécessairement parce que je viderais un trop-plein ou pas du tout, c'est plutôt que je construis certaines idées, puis là, elles sont là, elles existent. Puis ça me donne l'impression illusoire, peut-être, d'avancer un peu. Donc ça fait du bien de faire le récit d'une pensée qui se construit. Pour moi, le blog, c'est un peu comme... j'aime beaucoup penser à cette histoire-là. C'est un court récit de Yoko Ogawa, la petite pièce hexagonale. Donc, dans ce court récit-là, l'écrivaine japonaise parle d'une petite pièce à raconter. Ben, pour moi, le blog, c'est un peu une petite pièce à raconter. De cette manière-là, c'est un peu aussi l'atelier de l'écrivain, évidemment. Mais c'est sans, une pièce à raconter sans sa solitude. Donc, dans l'histoire d'Ogawa, une femme découvre une étrange pièce dans laquelle des inconnus entrent un à un pour y raconter tout ce qui leur passe par la tête. Donc, la narratrice s'assoit dans cette pièce et elle se laisse aller. Pour moi, le blog, c'est une petite pièce à raconter, mais c'est aussi une petite pièce pour la folie. On s'y installe seul avec son clavier et on peut frapper dans les murs, rire à gorge déployée, crier ou pleurer. On a le champ libre. Je sais pas, c'est un peu inquiétant, évidemment, que j'ai pensé ça, mais je sais pas si vous y avez déjà pensé, mais dans le fond, tu sais, on n'a pas le droit de crier dans la rue, évidemment, ce serait déplacé, c'est violent, mais aussi on n'a pas le droit de crier dans chez soi, dans notre appartement, parce qu'on a des voisins, puis parce que nos voisins seraient inquiets, puis que aussi quand on crie chez soi, évidemment, c'est violent pour les personnes qui sont là. Donc j'ai l'impression que le blog, ben, peut permettre ce cri là qui a quand même besoin d'advenir, puis qui a une place, il doit avoir une place. À partir de 2006, j'ai commencé un second projet de blog qui s'appelle Albertine Retrouvée. Puis je pense que cette idée là ben, de crier, frapper dans les murs, ouvrir à gorge déployée, s'y concrétise réellement. Donc, c'est un journal que j'ai rédigé avec Julie Boulanger. Donc, on tient le blog en équipe. Donc, on signe toutes les deux les textes sous le nom d'Albertine Bouquet. On dit pas... notre travail est vraiment à quatre mains au sens... comme on l'entend. Donc c'est ça, Albertine Bouquet, c'est un personnage fictif, mais comme la narratrice de Gawa, je pense qu'elle se laisse vraiment aller à tout ce qui lui passe par la tête, à la brutalité comme à ses désirs, à la mélancolie autant qu'à l'exaltation. Puis si les blogs sont des petites pièces pour la folie, c'est qu'ils sont à la fois dans le monde et à l'écart de celui-ci. Ils permettent de construire, de contenir tout ce qui ne peut pas exploser sauvagement dans notre vie. Comme je disais, on ne peut pas crier dans la rue et même pas dans son appartement. Bien, dans le blog, on peut le faire. Et ils sont un espace de liberté essentiel, un espace pour nos mauvaises pensées, mais aussi un espace pour le jeu, pour l'exploration, pour l'expérimentation.
On a plusieurs pistes quand même pour discuter. Je vais quand même me permettre peut-être de lancer une première idée. Si ça vous plaît pas, on passera à un autre sujet, là, c'est tout. En fait, j'essayais de trouver peut-être une question qui vous préoccupait à divers degrés, les cinq. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même la question de l'extension identitaire. Là. C'est Paul qui disait ça tantôt. Mais vous avez tous eu à un moment ou l'autre un rapport... à l'avatar ou quelque chose comme ça, c'est Clarence l'inspecteur, Madame Chose, Albertine, Patty O'Green. Donc, je sais pas, j'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus. Peut-être pour orienter un petit peu davantage là, la discussion, un point qui revenait beaucoup aussi, c'est l'idée d'assumer sa parole. C'est revenu quelques fois. Donc, je pense que c'est quand même assez lié, là, l'invention d'un avatar puis la prise de parole. Donc, lancez-vous. Voilà, amusez-vous.
Mais je vais peut-être commencer parce que moi, ce questionnement-là, je l'ai eu la première journée. C'était clair pour moi que je voulais pas, au début, signer de mon nom ce projet-là, pas parce que j'étais gênée ou quoi que ce soit, juste parce que c'était un propos que je voulais qu'il soit dissocié de moi complètement pour pas être prisonnière après de cette persona-là. Donc, j'ai décidé de faire un personnage fictif. Puis au début, sur le blog, c'était pas dit c'était qui Madame Chose. Je voulais vraiment pas le dire, sauf que là, j'étais un peu obligée de le dire parce que j'ai eu des demandes médias pour aller à la radio, parler du blog, faire des lectures. Fait que j'avais comme plus le choix de le dire à ce moment-là. Puis je dois dire que parfois, ça me dérange un peu d'avoir été obligé d'être hâté, entre guillemets, parce que t'as plus la... On abordait la question tantôt de qu'est-ce qui est de la réalité puis qu'est-ce qui est de la fiction. Puis dans ce que j'écris, il y a des histoires qui sont assez dures, puis il y a des gens qui ont vraiment pensé que ça m'était arrivé ou que c'était arrivé à des gens proches de moi. Puis ça, c'est quelque chose qui est excessivement difficile à gérer, parce que même si tu leur dis que c'est pas de l'autofiction puis que c'est de la fiction, ben ils te croient pas. Puis non seulement ça, mais moi, toutes les photos sur mon blog, c'est des photos de famille à moi personnellement ou des gens proches de moi que je prends. C'est un choix purement, je veux dire, c'est parce qu'ils étaient là, les photos, puis j'ai commencé à faire ça. Mais là, j'avais comme pas conscience vraiment que les gens, parce que là, je vous l'ai dit tantôt, les personnages n'étaient pas supposés revenir, mais là, les gens s'attachent aux personnages, donc mettent des visages. Donc, M. Bérubé, sur mon blog, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il habite à Saint-François-de-Sales, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis lui, il va pas sur les internets, tu sais, il va pas là. Sauf qu'il y a des gens dans le village qui sont allés voir mon blog parce que ma mère partage mes billets sur son wall. Ma mère est sur Facebook, c'est une calamité. Mais, puis là, ben, il y a du monde qui se promène, puis on dit, mais mon Dieu, c'est épouvantable ce que ta petite fille écrit sur notre famille, tu sais. Mais ça, c'est arrivé, des histoires comme ça, donc c'est un truc qui est problématique. Pour moi.
Ça, c'est le revers négatif de, je pense, la success story présente, la plus rapide, la plus, je pense, qui a le plus d'expansion, le plus vite maintenant. Hein?
Il va y avoir un livre puis un projet télé, mais tu sais, je veux dire, tout ça est dans chantier, là, mais je veux dire, c'est ouais. Puis moi, je pensais, si j'avais su ça, j'aurais pas. J'aurais fait peut-être les photos sur Shutterstock. Mettons. Même s'ils sont vraiment laides. C'est ça. Ouais.
Mais par rapport au pseudonyme, par exemple, quand on pense au tout début du blog, les gens écrivaient tous sous pseudonyme. Je veux dire, il y a quand même... Il y a comme eu un moment, parce qu'au début, des primes exposées, c'était sous pseudonyme. Et puis... dans le fond, il y a comme eu un moment où le blog est devenu plus connu, où le nom blog est arrivé, parce qu'avant, c'était des weblogs. Maintenant, j'ai l'impression que les pseudonymes, c'est un peu out, là. Même si moi, je trouve ça vraiment le fun, les pseudonymes, je trouve ça vraiment intéressant. Mais il y a comme eu un moment, puis il y a un moment où il a fallu dévoiler qui on était, parce que sinon, ça faisait juste des... Ça allait juste... mener à des quêtes...
Oui, il y a de la spéculation.
À des quêtes vaines, oui, c'est ça, comme à l'époque... À l'époque, on savait pas, disons, le vrai nom de Nelly Arcand. Il y avait des gens sur Internet qui se le révélaient dans des petites communautés, puis ils étaient tout fiers. Ben ça peut faire un peu la même chose avec quand on a un pseudonyme, les gens veulent révéler. Comme si avoir un pseudonyme, c'était parce qu'on se cachait, alors que ça peut vraiment être tout autre chose. C'est juste... pour moi, le pseudonyme, c'est juste lié à la communauté Internet. C'est juste une façon de penser de geek d'Internet qui je trouve qui est intéressante, là, qui est stimulante.
Ben, c'est vrai que c'est lié au début du web. Je me souviens quand j'ai eu Internet, je me souviens pas sans quelle année, mais j'allais chatter sur IRC.
Oui.
Puis tout le monde avait des pseudonymes. Ouais. C'était pas juste des blogueurs. Là. C'était impensable de donner son vrai nom.
Oui. Je pense que ça, c'est de l'ordre du réflexe un peu. Au départ, plus que de la vraie réflexion, de la vraie réflexion de soit cacher son identité ou avoir une posture de fiction par rapport à ce qu'on écrit. En tout cas, personnellement, ça s'est fait comme un réflexe, parce que il y a rien que j'écris que je ne réclamerais pas en public, par exemple, si quelqu'un me le demande, etc. C'est comme une évidence pour moi que... Ouais, c'est moi qui écris ça, mais c'est juste que sur Internet, appelle-moi pas Daniel. Genre, ça marche pas. C'est pas ça mon nom sur Internet. C'est comme de cet ordre-là. Ça vient comme un peu sans qu'on le veuille. Je sais pas.
Ouais,
Alice.
En fait, par rapport à ça, pour faire un peu les relations publiques, le développement d'aujourd'hui, et j'avais posé la question à ça. Moi, je voulais m'identifier par rapport à mon blog. Mais je sais ce que tu disais. Là, c'était est-ce qu'on met le nom de la personne ou on vous identifie finalement puisque vous êtes des sommités dans la blogosphère? Est-ce que je vais vous nommer par qui vous êtes ou par... Parce que moi, j'avais aussi ce côté marketing. Je me disais, si je veux attirer le petit commentaire de Chantal Guy ce matin dans la presse, il va falloir que j'aille par ma mère était hipster ou Madame Chose. Parce que ça va faire.
Ils connaissent pas nos noms.
Non, voilà, c'est ça.
C'est bizarre, c'est parce que je te dirais
que. Et
puis,
je vous ai pas posé la question, ouais. Mais je me disais, tu sais, qu'est-ce que vous auriez voulu?
Mais j'ai l'impression qu'il y a un an ou un an et demi, en tout cas, nous trois, on aurait peut-être été comme plus réticents à le dire, mais comme quand moi j'ai commencé à vous suivre, il a fallu que je cherche qui ces gens-là et tout. Il y avait vraiment pas de lien qui reliait, par exemple, Patty avec. Effet de présence. C'était comme, jusqu'à un certain point, caché. Simon, à un moment donné, il m'a dit, je connais cette fille-là, elle est à l'UQAM, elle a un autre blog, blablabla. Bla, bla. On finit par faire les liens, mais là, on dirait que tout en même temps, il y a comme eu un effet où... ben, de la marque, là, tu sais.
C'est
toute la même affaire. C'est une espèce de coming out, là. Ouais.
Donc, 2011, c'était le coming out?
Ça ouais, se pourrait, un peu. Ouais.
Ben, moi, personnellement, je sais que j'ai blogué sur Ma mère était hipster pendant 2 ans anonyme, sous le pseudonyme Ma mère, mm-hmm. qui a amené des trucs intéressants quand même parce que les gens qui me suivaient, tu sais, ils changeaient le nom en exemple. Hey, mom, hey, ouais. Ça virait comme ça, je suis même pas maman, tu sais, mais ça, en tout cas, ça a comme amené des petits pseudonymes qui ont changé comme ça, mais les gens me connaissaient sous ce nom-là. Mais à un moment donné, j'ai trouvé ça lourd. À la longue, je trouvais ça lourd, je trouvais ça fatigant de toujours... Je me suis dit, pourquoi pas mettre mon nom? Il n'y a rien de honteux dans ce que j'écris, il n'y a rien de... Mais c'est un processus qui s'est fait lentement, mais j'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il n'y aurait pas été question du tout que je mette mon vrai nom là-dessus, parce que je travaille dans le public, mais maintenant, c'est ce qui est fascinant, c'est que ça s'est inversé complètement, et maintenant, ça m'amène des occasions professionnelles. C'est ça qui est un peu drôle, en fait. C'est un peu un drôle d'univers.
Qu'est-ce que tu penses qui a changé, finalement?
Bien, je sais pas. Moi, pour moi, ça a été moins lourd de dire mon nom, tout simplement, mais ça s'associait aussi avec ce que je faisais dans la vie, finalement. C'est ce que je me suis rendu compte. Donc, c'est allé de soi à un moment donné. Mais j'ai comme relâché. J'ai dit, OK, allons-y. Puis je sais pas si ça explique bien.
J'ai une idée quand même là-dessus. C'est qu'après 1 an, 2 ans, après une certaine quantité de billets, ça devient une espèce de corpus, tu sais. Puis, alors du coup, on a envie de se le réapproprier, là. D'abord, qu'est-ce que c'est le pseudonyme? T'sais, bon, peut-être qu'Amélie a déjà blogué uniquement sous son pseudo, mais sur sa page, maintenant, bon, on voit bien qu'elle s'identifie et tout ça. Il y a comme, on dirait, toujours le besoin juste d'établir comme une pelure d'oignon ou deux entre soi et ce qui est là et ce qui est diffusé, peut-être en partie parce qu'un blog s'est ouvert, parce que c'est pas reçu de la même façon qu'un livre où c'est comme un petit peu figé, peut-être un petit peu mort, c'est-à-dire, bon, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, alors que là, c'est quelque chose qu'on est en train de faire dans le présent. Moi, je m'approprie bien All Work and No Play, mais je marche quand même pour que mon nom soit pas sur la page ou qu'elle y reste pas trop longtemps, ce qui me permet à un moment donné peut-être de faire un rapprochement entre la scatophagie puis l'état de la culture actuellement, dans le cinéma hollywoodien. Il y a quand même un élément de danger.
Tu ferais pas ça sur ton nom, Jean-Philippe?
Hein?
Tu le ferais pas sur ton...
Ben oui, bien sûr que si, tu sais, éventuellement, mais là-dessus, dans le web, dans cette espèce de Wild West, là, tu sais, où on met une cape et on se prend pour des justiciers ou je ne sais quoi, où on part des controverses, des fois à gauche, à droite, dans les espaces de commentaires des autres. Je sais pas, c'est peut-être en même temps comme un élément d'étiquette qui permet justement d'en manquer de temps à autre quand on écrit, hein, quand on a envie de varger dans les murs et de crier. Quelque chose aussi peut-être comme une marque, une griffe, quoi, une marque de commerce, un côté un petit peu initié, quoi, qui fait que, justement, ben voilà, Daniel, c'est Clarence, tu sais, on avance là-dedans, on se rencontre assez facilement en personne, mais... Ben, s'il y a des gens qui sont pas au parfum, ben il reste le papier, il reste la page, c'est tout. Il reste le discours, comme ça.
Ceci dit, c'est aussi... En tout cas, dans certains cas, c'est quand même des avatars, c'est quand même plus que des pseudonymes, c'est aussi des personnalités qui sont quand même juste un petit peu décalées parfois de ce qu'on est vraiment dans la vie. Donc moi, à la limite, sur Internet, j'aime bien être Clarence parce que Clarence, c'est comme un détective. C'est Clarence l'inspecteur, donc il y a des gens qui vont faire référence au fait que bon, on va mettre le détective là-dessus. T'sais. Ça n'a comme rien à voir avec ma personnalité, mais c'est le fun pareil. J'aurais pas tendance, quand j'interagis avec Paul, j'aurais pas tendance à l'appeler Paul. Parce que je parle pas à Paul. Je la connais pas, cette fille-là. Je parle à sa personnalité, que je connais quand même bien maintenant, puis c'est avec elle que j'interagis, puis cette fille-là, c'est Patty ou O'Green, etc. Puis il y a comme un décalage par rapport à la réalité, un peu.
J'imagine, ça je vais faire ça bref, mais j'imagine aussi que l'idée, le parfait salaud, un truc, Pierre-Luc, OK, rapidement. Surtout quand il y a une optique un peu de promotion, justement, c'est d'aller commenter d'un page des autres pour drainer des lecteurs dans la scène et tout ça, tu sais, t'es comme une griffe, tu sais. T'es une griffe, tu sais, ce discours griffé, quoi, t'es brandé, là, en quelque part, là, tu sais. Alors, voilà. Hop.
Je trouve ça fascinant de vous entendre. Là. J'aurais rien dit si j'étais passée après vous. Je trouve ça extraordinaire. Ce qui me fascine, c'est on dit que quand les choses ne fonctionnent pas, il n'y a pas de problème. Mais quand les choses se mettent à fonctionner, vraiment, là, il peut y avoir des problèmes. Tu sais, actuellement, ce que je constate, c'est que vos blogs fonctionnent très bien. Puis même que peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre du jeu de rôle, de faire un blog parfois par dépit. Bon, OK, mon roman est refusé, je vais aller sur le web, c'est facile. Et puis on peut jouer, et puis on peut prendre effectivement un nom, n'importe lequel, changer le blog. C'est extrêmement souple. Puis un jour, on est invité à la radio, puis un jour, le statut change un peu quand le blog marche. Est-ce que, bon, il y a des métiers qui disparaissent, là. Moi, à Magog, le textile s'achève, là. C'est pas terminé. Mais est-ce que ça se peut que du jeu de rôle, puis vous êtes un peu, si vous bloguez depuis longtemps, à l'âge que vous avez en plus, chef de file de quelque chose qui peut même aller un peu plus loin encore. Est-ce que vous avez l'idée de ce qui peut se passer avec vos blogs ou votre vie ou les liens entre la réussite que vous avez actuelle? Puis, tu sais, moi, j'ai eu, par exemple, Fred Pellerin comme étudiant quand j'étais à Trois-Rivières. Bon, ben là, aujourd'hui, il fait un immense chemin qu'il prévoyait absolument pas faire à 20 ans. Est-ce que vous avez cette conscience-là que quelque chose se développe qui n'est pas juste je prends un rôle d'écrivain ou je suis dans les égos collectifs, les égos expérimentaux de Condéra, mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Est-ce que ça se peut qu'un jour, vous gagnez votre vie encore plus avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe dans ce métier-là, dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable de vous projeter, admettons, dans 5-10 ans, ça sera quoi? Le blog et le blogueur, puis vos sites?
Moi, je peux peut-être parler pour moi, mais ce que je sais, c'est que au départ, ce qui devait être quelque chose vraiment pour m'amuser est devenu. Ça m'a apporté. J'ai connu d'autres blogueurs. J'ai connu Caroline Allard, qui est mère indigne. On a développé des liens d'amitié. Maintenant, j'écris une série télé avec elle, les web télé. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, je me disais que j'allais prendre une pause du monde de la pub pour revenir peut-être dans un an. Ben là, en tout cas, si ça continue comme ça, ça m'amène tellement d'autres choses qu'on va voir. Je suis pas une fille qui fait des plans de carrière à la base, donc... Mais oui, c'est clair que le blog, pour moi, ça a changé ma vie, entre guillemets. Là, je pense pas retourner en pub, à part de l'autre côté de la clôture, comme on... Parce que maintenant, je vends ce que je vendais à mes clients, finalement. Donc, j'ai plus envie de retourner de l'autre côté. C'est trop plate. Ouais.
Toi, t'es la version comme télé-réalité du blog.
Ouais. Mais c'est très drôle parce que, tu sais, j'ai mes anciens patrons qui suivent le blog puis disent, tu sais, c'est vraiment drôle de voir... Tu mets en pratique les trucs que tu nous... Pas enseignais, mais puisque moi, j'étais la conseillère médias sociaux puis tout ça, donc... Ça lui fait beaucoup rire de voir, ben ils sont fiers en même temps, mais de voir que ça fonctionne bien et que ça mène à autre chose. Donc, je sais pas où dans 10 ans, mais en tout cas, clairement, ça va avoir changé mon parcours. Ça, je le vois déjà. Là. Ouais.
Même chose. Je sais pas si t'allais... Même chose dans mon cas aussi. À mon travail actuel, moi, je travaille à la Fondation DHCR dans le Vieux-Montréal. J'avais un emploi en éducation là-bas. Et c'est à force de voir les interactions que je faisais sur les réseaux sociaux et mon propre blog que maintenant, je m'occupe du blog là-bas et des réseaux sociaux là-bas. Donc, mon emploi a complètement changé. Et je me dirigeais en éducation, moi. Et ça a complètement bifurqué. Et je suis dans un milieu qui me plaît d'autant plus encore. Puis j'avais pas prévu ça du tout. C'est vraiment, ça m'a ouvert des portes, ne serait-ce que dans la vie culturelle à Montréal. Je peux aller voir pas mal de spectacles que j'ai envie d'aller voir. Je reçois des livres, ce que je n'aurais jamais, jamais, jamais cru au début. Jamais. Pour un blog qui est parti parce que je m'ennuyais d'être libraire, disquaire, pour me désennuyer aussi, c'est vraiment parti de là, là. Puis c'est peut-être aussi, je reviens à l'avatar aussi, c'était pas une idée d'auto-promo non plus. C'est pour ça peut-être le nom était pas là aussi, là. C'était une idée vraiment d'avoir du fun, de s'amuser, d'écrire, ouais, de jeu, ouais, vraiment. Fait que oui, moi aussi, même principe, ça.
Un élément qui va dans le même sens et qui marche chronologiquement dans le sens contraire, c'est cette idée de la personnalité qui permet de se mettre un peu à distance. Moi, mon blog, je l'ai créé sous mon nom et je me suis créé une personnalité petit à petit et j'utilise de moins en moins mon nom. Donc, en fait, je fais le parcours inverse de ce que vous avez fait, mais pour arriver au même effet, qui consiste à mettre une distance entre ce que je raconte et ma personne. Et donc, en fait, moi, j'écris mes textes maintenant en disant « l'oreille tendue a vu ceci », elle fait. Mm-hmm. Et donc, je parle de moi-même au féminin. Mm-hmm. C'est évidemment un pur jeu stylistique.
On vous accepte. Ça,
merci. C'est un pur jeu stylistique, mais c'est fait pareil. Et là, ça nous ramène aux questions d'autofiction tout à l'heure. Mm. Hein, c'est comment on fait pour mettre une distance entre soi et son image publique? Comment on fait pour ne pas simplement raconter ce qu'on a mangé au petit déjeuner, des choses semblables, l'accusation habituelle contre Twitter, contre le blog? Mais c'est se créer une personnalité, c'est se créer une figure publique et la mettre en scène. Donc, en fait, on fait tous un peu la même chose à des vitesses variables et selon des cheminements différents, mais ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas justement de l'écriture brute, c'est quelque chose qui passe par le filtre d'une personnalité qu'on s'invente.
Tu as parlé de l'importance pour toi de l'abondance. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de dépenses, de dons. Puis, tu sais, en tant que lecteur de blog, quelque chose que j'admire beaucoup, en fait, c'est cette abondance-là de l'écriture. Parce que je trouve, bien, c'est sûr, bon, c'est pas un critère, là, nécessairement, tu sais, dur comme faire, mais tu peux mesurer tout de même le sérieux avec lequel le blogueur considère sa pratique. Quand tu vois qu'à chaque jour, tu sais, je veux dire, comme toi, ce que tu fais, c'est tout de même assez étonnant. Tu as deux blogs en même temps que tu alimentes presque tous les jours. Ça vient à quelque part, selon moi, valider autrement que justement par l'institution, tu sais, cette pratique-là.
Hein? Ben oui, je dors. Mais comme je le disais, moi, ça me prend. C'est super spontané ce que j'écris. C'est spontané dans une certaine mesure. Je veux dire, je suis toujours en réflexion. C'est ce que je suis en train d'écrire ma thèse, donc je suis toujours en réflexion. Je suis inspirée par plein de choses, puis que je l'écrive sur mon blog, ben c'est ça, c'est comme ça, mais ça sort comme ça. C'est pas retravailler, n'en plus finir. C'est juste un flux constant. Puis quand ça marche partout. Puis sérieusement, je sais pas comment. Je sais pas. Je pourrais appeler ça comme ça, là. Mais, ouais, c'est ça.
Bien, il y a quand même... T'as parlé tout à l'heure du... en citant ta théoricienne, t'as parlé du haut degré de... Irrelevance.
Ouais.
Qui est quand même assez intéressant, parce que, Simon, tu parles de... C'est comme ça qu'on va mesurer la façon... le sérieux d'une pratique bloguesque. Le fait d'écrire souvent... Mais en même temps, le fait d'écrire souvent mène presque automatiquement à un haut degré de non-pertinence dans l'écriture, tu sais.
Mais là-dessus, c'est ça. Comme ce que j'ai ajouté tout de suite après avoir dit ça, c'est que c'est un peu faux que je trouve que ce soit la quantité qui va créer un haut degré d'irrelevance. Parce que sur les blogs, même les gens qui ne bloguent pas souvent vont...
Mm-hmm.
Je veux dire, pour moi, il y a... Ben oui. Ben des niaiseries. Non, je ne sais pas si on va appeler ça des niaiseries, mais je ne trouve pas qu'il y a une plus grande proportion dans ceux qui mettent plus de temps à écrire, nécessairement. Une grande proportion de choses.
Mais la question à ce moment-là, c'est est-ce que le médium en tant que tel appelle nécessairement la non-pertinence du propos, tu sais. Ce que tu dis, c'est ça, c'est même si tu n'écris pas souvent, même les gens qui écrivent pas souvent vont se ramasser à écrire des choses qui sont... Mais encore une fois, il faudrait définir la pertinence.
Oui, non, c'est ça.
Mais c'est un haut degré, on s'entend, en tout cas d'après moi, c'est un haut degré de pertinence bloguesque.
Mm-hmm.
Justement, c'est ça que ça veut dire dans ma tête, écrire sur un blog. C'est parler, en effet, des fois de choses qui sont, comme tu disais tout à l'heure, qui sont pas nécessairement réfléchies, qui sortent comme des flashs, qui sortent comme des trop-pleins. On a utilisé l'expression tout à l'heure.
Mais dans ta présentation tout à l'heure, Daniel, tu parlais de la subtile beauté du quotidien. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est le propre du... Ben, pas nécessairement le propre du blog, mais est-ce que ça appartient au blog, ce territoire-là? Est-ce que c'est typiquement blogueuse de parler de cette subtile beauté du quotidien? Est-ce que quand tu écris pour d'autres trucs, c'est dans cette optique-là aussi que tu penses l'écriture ou c'est typiquement... c'est relié à ta pratique du blog?
Ben, je pense que c'est relié à la pratique du blog, mais que ça a influencé toutes les autres sphères de mon écriture maintenant, par contre.
Parce que forcément, à écrire de façon journalière, on est amené à considérer la substance du quotidien, parce qu'on n'a pas des idées géniales à chaque jour. Là. Ça arrive peut-être ça arrive jamais, ou quelques fois dans une vie.
Ben oui, mais la question se pose à savoir, si tu n'as pas d'idées cette journée-là, est-ce que tu te forces à écrire un billet? Ou tu te fermes la gueule, puis tu attends demain, tu sais? Est-ce que tu vas avoir une rigueur dans le propos ou une rigueur, par exemple, dans la régularité, ouais, avec tes fibres et tout, dans l'écriture. Il y a comme eu un délai dans l'écriture journalière. Est-ce que tu vas avoir de la rigueur là-dedans ou dans ton propos, etc. Des fois, en effet, on n'a rien à dire, mais on va... Moi, pendant un an, j'ai écrit chaque jour. C'était ça le but du blog. Le but du blog, c'était pas d'écrire des affaires importantes ou nécessairement intéressantes, c'était d'écrire chaque jour. Donc, c'est ça.
Moi, pour vous lire, pas toujours régulièrement, mais quand même assez régulièrement, ce que je trouve fascinant de vos projets, c'est, tantôt vous parliez de pertinence ou encore d'abondance, moi, ce que je remarque, c'est surtout la liberté. C'est vous êtes donné un espace de liberté et qui vous permet, en fait, de jouer avec le langage, de jouer avec l'écriture, alors que cet espace de liberté-là passe par le biais d'un avatar, passe par le biais d'un ensemble de filtres, passe par le biais d'un projet bien précis qui vient cadrer les interventions. C'est pas tellement important. Moi, ce que je trouve important, c'est de voir comment, d'une certaine façon, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de projet éditorial fixe, qu'il n'y a pas derrière un livre, qu'il n'y a pas derrière une machine qui vous dirait « vous devez rentrer dans tel et tel moule », parce qu'en fait, essentiellement, un éditeur va finir par imposer, pas nécessairement son moule, mais au moins sa façon de faire. Vous le savez, enfin, si vous passez à travers un éditeur, il va vouloir que ça ressemble à ce qu'il aime publier. Là, en fait, vous avez court-circuité, par la force des choses, le médium permet ce court-circuit-là, de court-circuiter tout le processus éditorial. Et ce qu'on retrouve, en fait, c'est cet espace de liberté qui est un espace d'écriture. Et moi, dans ce sens-là, vous lire, ce que ça me dit toujours, c'est, mon Dieu, c'est intéressant de voir comment vous réussissez à réinventer, d'une certaine façon, une écriture en fonction des enjeux qui sont les vôtres, parfois avec des, parfois avec des filtres. Et à d'autres moments, le filtre ne devient plus important. Moi, j'ai vécu exactement la même chose que vous. J'ai commencé avec un avatar. Je me suis beaucoup amusé avec Éric Lin, qui continue à survivre, mais j'en ai beaucoup moins besoin maintenant. Mais il y avait là, en fait, un espace qui me permettait de jouer avec un certain nombre d'éléments que je n'avais pas assumés. Et au fur et à mesure, ma pratique a continué, et sans avoir besoin du filtre en question. Et donc, je vois très bien comment, tout à coup, l'espace de liberté s'est structuré, qui est un espace d'écriture. Et à partir du moment où cet espace d'écriture-là s'est stabilisé, bien là, le filtre pouvait ou non rester présent, pouvait disparaître, je pouvais en ajouter d'autres, jouer avec certaines variables. Et je vois très bien comment certains de vos projets qui évoluent font en sorte que on voit très bien l'espace est constitué, il est là, et en fait, vous le jouez, tout comme un écrivain va jouer avec l'ensemble des filtres et l'ensemble des procédés d'écriture permis possibles. Et en fait, point. Je pense que j'arrive au bout de ma voix aussi.
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ma femme, ça ne prend pas vraiment.
Bien, sur la question de la pertinence, il y a quelque chose qui disons, c'est une remarque pour avoir vu évoluer le blog. Parce que pour moi, au départ, le blog, c'était vraiment, moi, je suis sur LiveJournal, qui est une plateforme qu'on n'utilise plus beaucoup. Puis dans le fond, sur LiveJournal, c'était un réseau social. Fait que j'avais... J'avais des amis qui me lisaient, puis eux-mêmes avaient leur propre compte, tout ça, fait que c'était un effet de petite communauté. Maintenant, la plupart des blogueurs de LiveJournal de l'époque sont plus là, puis c'est bien dommage. Mais à ce moment-là, c'était juste des individus qui écrivaient des journaux un peu intimes, mais pas nécessairement, parce que comme on l'a dit ce matin, je me rappelle plus qui l'a dit, Simon, je pense, le jeu est pas nécessairement un vrai jeu. Mais ce que j'ai vu, par exemple, dans la blogosphère, ce qui a évolué, c'est qu'au départ, les weblogs, c'est ça, c'était des individus qui écrivaient. J'imagine qu'il y avait déjà cette idée-là du blog à concept, mais c'est sûr que dans les dernières années, l'idée du blog à concept est vraiment de plus en plus fort. Là, il faut être un camionneur pour raconter son expérience de camionneur, chauffer un taxi. Non, mais il y a toutes ces idées-là, tu sais, on veut la bibliothécaire qui nous raconte sa vie de bibliothécaire. C'est intéressant, mais je trouve que ça l'a, le blog, il s'est comme structuré par la pratique, puis il s'est structuré par ces blogs à concept-là. Puis je trouve ça intéressant de revenir à une idée de plus grande liberté où la pertinence n'est pas nécessairement obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire non plus de blogs à concept, là, c'est pas ça. C'est juste que je pense que c'est intéressant qu'il y ait dans le blog des... Oui, c'est ça, ça devient une genre de recette. Mais tu sais, pour certaines personnes, évidemment, ce blog à concept-là, ça peut être une contrainte qui stimule leur créativité, puis c'est génial, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que c'est important qu'il y ait des textes qui soient moins pertinents sur un blog. De toute façon, ce qui est pertinent pour quelqu'un est peut-être pertinent pour un autre, là. Fait qu'il n'y a pas de... Je sais pas, fait que... J'ai l'impression que... qu'on s'est mis à accorder de plus en plus d'importance à l'utilité, alors que c'est le fun de d'écrire des choses en vain ou des choses qui nous écartent un peu. Je pense à ça parce qu'à l'émission, là, plus on est de fous, plus on lit, un des intervenants sur l'histoire là, sur la question du le blog est-il mort, avait dit que quand un blogueur se mettait à parler d'un autre sujet que le sujet habituel de son blog, il arrêtait de le lire. Ouais. Là, j'étais là, OK. Ouais, disons qu'on n'a pas la même conception des choses. Moi, j'aime ça quand un blogueur se met à parler d'autre chose que de son sujet habituel. En fait, c'est à ce moment-là, mais pas que son sujet habituel est inintéressant, mais à ce moment-là, on s'écarte un peu, mais il se passe quelque chose d'autre, un petit événement, je ne sais pas, justement, parce qu'il s'est écarté de sa ligne habituelle, puis c'est intéressant aussi.
Mais ça reste une incartade jusqu'à un certain point. Il y a quand même une ligne directrice qui est habituellement qui est recherchée par...
C'est pour ça que les lecteurs viennent te
par
lire.
Par les lecteurs. Ils vont lire quelque chose qui a quand même un...
Moi, quand je vais lire Albertine, je m'attends à Albertine, tu sais. Si, mettons, elle se met à être vraiment...
Si tu deviens trucker tout à coup sur
la chaîne. C'est ça, je vais comme être déçue. Tu comprends?
Oui, c'est ça.
Je vais être plate. Non, en rêve. Ah oui, non, c'est certain, mais la ligne directrice, en même temps, c'est toujours l'individu qui écrit d'une certaine manière.
Oui, mais si c'est ça, dans une optique où ton blog n'a justement pas de concept au départ.
Ouais, non, c'est
sûr.
C'est-à-dire
que tu as un blog, ce qu'on n'a pas vraiment défini depuis le début, puis je sais que Paul ne tripe pas sur l'expression non plus, mais le fameux blog littéraire qu'on a comme pris pour acquis, qu'est-ce que c'est exactement? Mais souvent, des blogs qui sont à prétention littéraire ont souvent, en effet, un peu le seul concept qui est là, c'est de s'intéresser de près ou de loin à la littérature, à la fois d'un point de vue critique, parce que c'est souvent des gens, c'est souvent des universitaires, ou en tout cas qui ont une réflexion sur la littérature, et d'un autre côté, avec un aspect qui va jouer sur la fiction. Donc, en effet, ça donne des blogs qui sont extrêmement éparpillés, mais là, tes lecteurs, dès le départ, tes lecteurs, les quelques gens qui vont te lire sont intéressés un peu par cette dissémination-là, puis par les divagations que ça crée, là.
Non, écoutez, je pense qu'on a peut-être un peu fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose avant qu'on termine. De toute façon, je vous propose qu'on aille peut-être à la mer à boire pour suivre la discussion là, autour de...
Ma mère est une hipster à boire.
On est fatigué, là. Ouais, c'est ça. Donc, on met fin à la journée d'études, là, mais merci. Merci à tous d'être venus. C'était bien agréable. Puis, il y en aura peut-être une autre.
Merci aux 50 personnes qui étaient là.
Ouais.
Oui, vraiment. Merci.